www.radioscoop.com.
Premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière en direct sur La Première. Notre première invitée, paysanne, maître agricultrice, dirige une exploitation bio à Ruère-les-Prés dans la Broye fribourgeoise. Première femme fribourgeoise à recevoir la maîtrise fédérale agricole en 2013, elle est aussi engagée en politique depuis 2015. Vice-présidente du Grand Conseil fribourgeois et députée verte, elle est aussi à la tête du comité de Bio-Fribourg. À 47 ans, cette ancienne journaliste pour la presse locale et secrétaire au syndicat paysan unitaire incarne la relève des Verts broyards. Mariée, mère de deux grandes filles, elle est habituée à changer de costume plusieurs fois par jour entre son habit de politicienne et ses bottes d'agricultrice. Positive, engagée, organisée, elle garde la tête froide et compte bien s'inscrire dans la durée. Notre deuxième invité est un photographe humaniste au regard sans neutralité, avec toujours en ligne de mire une pointe d'ironie et d'étonnement. À 58 ans, ce jeune voix d'origine est tessinois d'adoption via Lugano depuis 25 ans. Par le passé, il voyage beaucoup, ses reportages l'emmènent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ainsi qu'en Amérique du Nord. À trois reprises, il remporte le Swiss Press Award photo pour des images prises à l'étranger. Publié dans la presse suisse et à l'international, il est également l'auteur de 6 livres de photographie. Le dernier en date, Homo Helveticus, restitue des fragments d'une Helvétie en noir-blanc. Jeune homme, c'est pourtant vers la France qu'il lorgne. C'est à son retour de New York, après des études de photojournalisme et après une licence en économie politique, qu'il se préoccupe d'explorer ses racines. Père de deux enfants, ses clichés parlent principalement de notre identité et de notre rapport complexe à l'environnement. Notre première invitée est Sylvie Bonvin-Sansonance, notre deuxième invité est Didier Rueff. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Sylvie Bonvin-Sansonance.
Bonjour.
Bonjour Didier Rueff.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux.
Merci.
Merci.
On commence avec vous, tiens, Didier Rueff. Racontez-nous une première rencontre, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué.
Oui, alors, comme tous vos participants, j'ai lentement réfléchi. J'aurais pu parler, bien sûr, de la naissance de mes enfants, la rencontre de ma femme. Mais finalement, j'ai fait tellement de rencontres dans ce travail et cette passion qu'est la photographie que j'ai décidé, en fait, de parler d'une rencontre un peu particulière, mais là, une rencontre que j'ai fait il y a 3 ans avec la salsa.
La salsa.
La salsa, oui. Parce que...
Vous le dites avec le petit accent tessinois ou
ouais,
quoi?
Oui, non, je le dis avec je sais pas quel accent, je parle pas espagnol, donc. Mais, pourquoi je parle de la salsa? Parce que je pense qu'elle m'a tiré d'une dépression profonde.
Ah, carrément?
Oui, parce que comme tous les photographes engagés, les photojournalistes, je pense que ces plus de 25 ans sur le terrain m'ont quand même laissé des séquelles. Et les difficultés de la vie m'ont blessé quelque part. Donc la rencontre avec la salsa, ça a été comme un poumon, comme un retour. Moi, j'ai toujours aimé danser. Entre 15 et 20 ans, je dansais. C'était l'époque du disco, je dansais tout le temps. Et cette rencontre, ce retour un peu à la danse m'a fait énormément de bien.
Mais comment ça s'est passé, Didier Rueff, alors?
Ben, ça s'est passé alors qu'un été, je faisais un travail alimentaire en dehors de la photographie, j'ai décidé de prendre des cours particuliers en fait parce que l'un des premiers sujets que j'ai fait à New York, c'était sur la vie d'une famille portoricaine et la salsa était très présente, salsa merengue. Et tout ceci s'est resté un petit peu de côté et un jour c'est revenu avec passion et aujourd'hui je danse beaucoup.
Une fois par semaine, deux fois par semaine?
Ah non, quand je suis au Tessin, je danse 3-4 fois par semaine.
Ah oui, vous avez un club, vous
enfin, il y a tout, les pizzerias se transforment en salle de danse,
il faut connaître les bonnes adresses, c'est ça Didier?
Mais il y en a plein. Partout, ça égrène et de plus en plus de gens le font. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le cœur, ça rend heureux. Et puis cette musique douce, allègre, vous fait du bien.
Magnifique, Didier Rueff, on sent que ça vous rend vivant, effectivement. De votre côté, Sylvie Bonvin-Sansonance, c'est un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué, racontez-nous.
Alors j'ai fait plusieurs années de journalisme, mais c'est vrai que c'est un métier de rencontre. J'ai fait beaucoup de rencontres très importantes, mais il y en a une qui m'a particulièrement impressionnée, et c'est celle-ci que j'ai choisi de vous raconter. C'était en 1995, mon rédacteur en chef à l'époque, à Neuchâtel, m'avait demandé de trouver un angle pour marquer les 50 ans de la signature de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Et il m'a envoyé dans un EMS de Neuchâtel en me disant, ben, tu prends ton nagra, parce qu'on avait des nagras à l'époque. Ça paraît tellement vieux.
Et bon, on l'utilise toujours aujourd'hui.
Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis on m'a dit, ben, tu interviews un peu les personnes en leur demandant ce qu'ils faisaient en 1945, et qu'est-ce qu'ils se souviennent de l'armistice. Et puis j'ai interrogé plusieurs personnes âgées qui étaient là, qui me racontaient, vu de la Suisse, ce qu'ils avaient vu de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis une dame, un jour, à un moment donné, me dit « Mais allez voir ce monsieur qui est tout seul là-bas, peut-être qu'il aura quelque chose à vous raconter. » Et je me suis assise en face de ce monsieur sans lui demander la permission. Il est un peu fâché au début. Et puis en fait, ça a été une rencontre incroyable parce que ce monsieur, qui s'appelait André, était un résistant français. Et il m'a raconté les sabotages des trains, les sabotages des ponts, des munitions des Allemands. Il m'a raconté l'arrestation par la Gestapo. Il m'a raconté le camp de Buchenwald où il a été interné. Il m'a même montré son tatouage avec le numéro. Il m'a raconté la vie là-bas, qu'est-ce qui a permis qu'il s'en sorte. Et puis la libération par les Russes et les Russes qui l'ont soigné. Et puis sa lente reconstruction en Suisse où il était venu après la guerre comme cuisinier à Neuchâtel et où il a vécu et il a eu une famille. Et ça m'a vraiment profondément marqué pour toute la suite de ma vie, parce que quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, ça paraît de plus en plus loin, on connaît de moins en moins de monde qui ont participé. Et grâce à lui, je sais que des gens ont souffert vraiment, dans leur chair et dans leur mental aussi, et pour moi ça a été très important.
Quelque chose s'est passé dans votre cœur à ce moment-là, Sylvie Bonvin-Sossenance.
Absolument.
Vous
oui.
avez décidé, voilà, enfin quelque chose du domaine du pacifisme, de...
Non, j'étais déjà très remontée contre les guerres, évidemment, comme j'imagine peut-être beaucoup de jeunes à l'époque, mais là ça m'a vraiment fait rentrer dans
une vision incarnée,
disons, dans une vision réelle de ce qui s'était passé. Et il le disait avec beaucoup de pudeur, et il m'avait dit par exemple qu'est-ce qui avait fait qu'il avait survécu. Il a perdu 40 kilos en 6 mois dans le camp de concentration. Et il m'a dit ce qu'il avait aidé beaucoup, c'était qu'il aimait bien chanter et qu'il avait fait beaucoup de sport avant. Il était boxeur et c'est ça qui l'avait aidé.
C'est beau, Sylvie Bonvin-Sossenance, cette rencontre avec ce vieux monsieur André, peut-être décédé, je pense, à l'heure qu'il est.
Probablement, oui.
Ouais. Et puis, votre rencontre à vous, Didier Rueff, la salsa. Enfin, voilà, il y a quelque chose du printemps pour ce monsieur André, c'était le sport et quelque chose comme ça qu'il a tenu. Et pour vous, c'est la danse. On va passer à une autre forme de danse, chers invités. On va passer au speed dating de cette émission. Sylvie Bonvin-Sossenance, je vous donne 2 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez à Didier Rueff. C'est parti, c'est à vous.
Bonjour.
Bonjour.
La photographie, c'est un art très difficile. Beaucoup de gens maintenant font beaucoup de photos. On est dans une civilisation de l'image. Vous, que représente pour vous un appareil de photo ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes derrière votre appareil de photo ?
Bah, disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pollution d'image. Hein. Tout le monde fait des photos. Est-ce qu'ils font des photos ? Je pense qu'ils captent des moments. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les mettent sur la toile, sur le grand réseau, ils les perdent, ils ne les regardent pas. Moi, la photographie, je suis un peu tombé dedans. À 15 ans, c'est devenu... c'était d'abord une passion, un hobby, et puis c'est devenu une addiction. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe comme un vide. Parce que finalement, quand je photographie, je suis un peu hors du temps. J'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi, qui sont les gens, quelle est la situation, qu'est-ce que je vis. Hein, vous avez parlé de guerre avant. Moi, j'ai été passablement sur des conflits de guerre et tout. Donc, il y a tout un autour de la photographie. Et puis, ce que j'aime, moi, dans la photographie, c'est cette réalité concrète, réelle. Et puis, ce côté objectif, les choix. On fait des choix. On fait à tout moment des choix. On cherche à montrer ou à décrire le monde selon un peu sa vision, et on essaye de peut-être de le rendre un peu meilleur.
Sur le plan technique, vous avez vu toute l'évolution technologique des appareils. Sur quel appareil vous travaillez aujourd'hui, et
moi, je suis passé de l'argentique au digital, même si aujourd'hui je fais encore de l'argentique. Mais fondamentalement, rien n'a changé. La lumière, c'est ce que j'explique toujours aux photographes. C'est la photographie, c'est un moment, c'est un choix, et c'est une lumière. Donc, bien sûr que les appareils aujourd'hui sont de meilleure qualité. On peut aller plus loin, mais rien n'a changé. Saisir la bonne émotion, le bon regard, le bon moment. la belle impression, c'est toujours aussi compliqué. Alors, le seul avantage aujourd'hui avec le digital, c'est qu'on peut avoir un retour plus rapide sur ces images.
Merci beaucoup Sylvie. Bon, Vincent Sonnon, ça n'est arrivé au bout de ces deux minutes de questions. Ça va très très vite. Vous en avez une qui vous brûle?
Non, non.
Ou pas? Non. Didier Rueff, vous parlez, en fait, pour faire une bonne photo, il faut trois choses. Le choix, le moment et la lumière, c'est bien ça?
Oui.
Et quoi encore? Il faut quand même un petit peu...
Il faut le cœur, il faut l'émotion, il faut l'envie, il faut la passion, il faut aller la chercher, parce que les images, elles sont là autour de nous, vous par exemple en ce moment, mais il faut faire l'effort, c'est un peu comme une pêche, la photographie. Elle vient pas toute seule.
Mais j'imagine aussi qu'il faut une forme de patience, il faut aussi savoir se fondre, il faut savoir être discret, enfin, parce que finalement, pouvoir attraper comme ça des moments sur le vif, c'est une manière de aussi se rendre invisible ou pas?
Tout à fait. Moi, je prends souvent l'exemple de la tapisserie ou du mur blanc. Il est blanc, on le voit au début, puis finalement, on remarque plus, il est là. La tapisserie, c'est pareil, elle est là, elle est toujours là, mais on la voit plus. Et moi, je deviens un petit peu, oui, invisible, parce que je passe beaucoup de temps avec les gens. Je suis très proche, je suis pas caché, hein, je suis pas à 100 mètres, j'ai pas de grand téléobjectif, je suis très très proche des gens. À leur contact, donc ils voient, ils savent ce qui se passe. Il n'y a pas de photographie volée, d'une certaine manière. Il y a des photographies partagées.
Vous êtes un photographe tapissier, c'est ça?
Tapissier, oui.
Bon, Sylvie Monfasson-Sonnance, petite devinette sur Didier Rueff. Où a-t-il grandi? Dans quelle partie de Genève, à votre avis? Vu qu'il habite au Tessin en ce moment. Enfant de quel quartier, pensez-vous?
Je connais pas tellement les quartiers de Genève, j'en connais un, mais je sais pas si c'est bien de le dire, les Paquis que je connais.
Ou... Ah non, alors dans les Paquis, j'ai fait un grand reportage sur la police.
Ah oui, mais dans les pages de l'Illustré, très impressionnant ce reportage.
Oui, c'était un travail extraordinaire. Non, j'ai grandi dans le quartier des Délices, ça me plaît.
C'est vers Saint-Jean, c'est juste?
C'est vers Saint-Jean, et en fait, devant chez moi, j'avais le parc Voltaire, et c'était la rue Madame de Staël, avec des écrivains, donc c'est... Moi, j'écris très mal, mais voilà, j'utilise l'image.
Didier Rueff, une enfance avec vos grands-parents, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai grandi avec mes grands-parents.
C'est tout?
C'est tout, non, mais ma mère était là, présente, mais j'ai une grande partie de mon enfance s'est faite avec mes grands-parents, et puis surtout avec mes amis, quoi, mes potes de la rue.
Vous en gardez à Genève, vu que vous habitez depuis si longtemps?
Mais je les vois tout le temps, je les ai encore vus hier, tout le temps. Mon garagiste et mon copain d'enfance à qui on jouait au foot, venez de me rappeler que hier, mon copain qui est informaticien m'a appelé, je l'ai pas rappelé.
Voilà. Chose faite, Didier Rueff, on connaît votre agenda, dorénavant. Didier Rueff, c'est votre tour de poser deux minutes de questions à Sylvie Bonvin. Sans ce nom, c'est parti, c'est à vous.
Alors vous, c'est compliqué parce que vous avez de multiples casquettes. Donc, à la base, vous êtes paysanne.
Alors, j'ai d'abord fait une formation de journaliste.
De journaliste, oui. Donc, à la base, c'est déjà
chose. J'ai travaillé comme journaliste radio, journaliste presse écrite. Ensuite, j'ai quitté le journalisme. Je suis devenue bergère d'alpage et j'ai fait une formation agricole.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez quitté le journalisme?
Alors, j'ai quitté le journalisme suite à un événement assez douloureux que j'ai vécu comme jeune journaliste. J'étais jeune, encore pleine d'utopie, puisque j'ai dû couvrir le drame du temple solaire à Chéry. Ça m'a vraiment bouleversé cet événement, parce que j'ai découvert là ce qu'était le journalisme du sensationnel, avec la CNN, l'hélicoptère de TF1, les bus de la RAI, les journalistes qui agressaient les enfants à la sortie de l'école, qui squattaient les enterrements dans l'église, qui essayaient de soudoyer les pompiers qui avaient découvert les cadavres. Donc je me suis dit, mon Dieu, je peux pas faire ce métier, c'est pas possible. J'avais qu'une envie, c'était faire silence, se recueillir devant cette histoire, et en fait c'était qu'un bruit, un brouhaha permanent de journalistes.
Je vous comprends bien, parce que je pense que ces faits divers, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vraiment le journalisme peu reluisant, je trouve.
Alors, c'est toujours la nécessité d'informer les gens, ça je comprends, mais il y a une certaine retenue à avoir, une certaine pudeur. Et j'ai trouvé que là, c'était une débauche totale par rapport à l'événement qui était dramatique, et puis par rapport aussi à la population qui n'y pouvait rien, mais qui s'est sentie vraiment agressée.
Et puis ensuite, alors vous faites cette conversion pour devenir bergère.
Alors j'ai fait bergère d'alpage, mais ça c'est que l'été.
Et puis en moyenne montagne, en haute montagne.
J'étais dans le Jura.
D'accord.
Dans le Jura vaudois, à la vallée de Joux en fait. Et puis après j'ai débuté la formation agricole dans l'idée de reprendre l'exploitation de mon grand-père.
Ah, donc vous aviez déjà un pied dans la terre.
Tout à fait. Oui, je suis fille et petite fille de paysans et je pense qu'il y a eu que des paysans dans mes deux
arbres généalogiques. Et vous avez deux filles, elles vont poursuivre ou
Alors je leur mets pas du tout la pression. Moi-même, j'ai eu mon CFC à 33 ans, vous voyez. Et donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant.
Vous les laissez mûrir gentiment. Exactement. Sylvie Bonvin-Sossenance. Merci beaucoup Didier Ruff. On arrive au bout de ces deux minutes de questions. Sylvie Bonvin-Sossenance, donc un grand papa paysan, un papa paysan, c'est ça?
Oui.
Et donc, vous inscrivez là-dedans, finalement, avec une forme de logique, si je comprends bien, vu que le journalisme vous a dégoûté à un moment clé. Bon, c'est aussi un événement particulier, hein, ce drame du Temple solaire.
Oui, alors surtout que quand j'ai arrêté le journalisme, je suis devenue secrétaire syndicale au syndicat paysan unitaire. Mmh. Donc là, on a fait la défense paysanne, et là, j'étais en contact aussi avec le monde agricole. Et puis, j'ai aussi après été journaliste pour... alors, c'est des choses très gentilles, pour le Terre et Nature, et le journal Agri... Journaliste technique professionnel agricole.
Et puis votre engagement politique, Sylvie Bonvin-Sossenance, c'est plutôt pour ça qu'on a entendu parler de vous ces derniers mois. Comment ça se fait que vous inscrivez en 2015 chez Les Verts? Comment ça s'est passé?
Alors j'avais pour ami et proche Louis Duc, un député fribourgeois très connu, paysan, lui-même militant, très connu dans le canton et dans notre région, parce que c'était lui qui mettait le feu aux chars de paille français, qui renversait les camions de tomates. Donc il était très très remonté.
Vous nous rappelez à quelle occasion?
Dans différentes activités syndicales, et c'était lui qui était très actif, Louis Duc, donc il venait de Forel, un village à côté de chez moi. Et puis il m'avait demandé plusieurs fois d'être sur sa liste pour le Grand Conseil. Quand j'étais journaliste, je ne le pouvais pas. Et puis quand j'ai arrêté, je me suis dit, ben, je viens pour te rendre service. Et puis finalement, je suis arrivée juste derrière lui à l'élection. Et lorsqu'il est décédé, au cours de son mandat, bien, on m'a demandé si je voulais reprendre son siège, et c'est ce que j'ai fait.
Et depuis, quel genre de feu ça vous donne, cet engagement politique, Sylvie Bonvin-Sossenance?
Alors je pense que je suis active sur les débats de l'alimentation, par exemple, l'agriculture aussi. Et puis je pense que c'est très important aujourd'hui. Je pense que c'est même la base de tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'alimentation et l'agriculture.
C'est tout, comme ça, voilà. Sylvie Bonvin-Sossenance, vous, c'est l'agriculture, la nourriture.
À partir de là, évidemment, il y a d'autres choses qui sont importantes. L'écologie sociale, l'environnement aussi, bien sûr. Mais à partir de cette base-là, je pense qu'on peut aborder tous les sujets, la vie en société, le bien vivre ensemble. Et à partir de l'alimentation, on peut vraiment développer un projet de société.
Sylvie Bonvin-Sossenance, donc la question écologique compte beaucoup pour vous, vous êtes paysanne bio. Didier Ruff, vous avez beaucoup photographié des désastres écologiques, justement. Alors, vous donc semblez pendant... dire que tout à l'heure, enfin voilà, vous avez été 25 ans sur des terrains assez accidentés, enfin vous avez vu des choses pas faciles, notamment des catastrophes écologiques. Vous avez dû, comment dire, vous immerger dans la salsa pour retrouver un peu de joie de vivre, si j'ai bien compris. Comment ça se passe, justement, alors, ce rapport à la question environnementale?
Disons que depuis quasiment mes débuts, c'est-à-dire que moi j'ai fait une licence en économie politique. Ce que j'ai découvert quand j'ai fait cette licence, d'abord que la théorie était bien loin de la pratique, mais surtout qu'à l'époque, l'environnement, la qualité de l'eau, de l'air, les pollutions, les contaminations, tout ceci n'entrait pas vraiment dans les modèles économiques. Donc j'avais fait un travail de licence autour du coût des pollutions transfrontalières, puis devenu photographe avec cet engagement, disons, social, humain. J'ai dès le début eu l'idée de faire un travail, un peu en paraphrasant le travail habituel de l'homme au travail, de faire un travail sur l'homme et les déchets. Et ça m'a emmené dans un voyage immense et très long, que j'ai jamais imaginé aussi long d'ailleurs, pendant près de 20 ans, souvent faute de moyens ou faute de possibilités. Donc j'ai construit ce sujet, ce rapport.
Où est-ce que vous êtes allé, Didier Ruff, alors?
J'étais partout. Maintenant, j'ai vraiment été partout
citez-nous trois endroits qui vous ont le plus marqué.
J'ai été à Tchernobyl et au Kazakhstan pour les contaminations nucléaires. J'ai été sur les catastrophes environnementales, que ce soit au Mozambique, avec un ouragan, comme il y a ces jours, sur l'ouragan Katrina. Mais j'ai fait aussi toute une partie autour du recyclage des déchets de la guerre, des déchets des bateaux qu'on recycle, des ordinateurs, des appareils photos. Et puis j'ai fait le tout venant. C'est-à-dire que l'un des premiers sujets, c'était à Genève, sur la collecte des déchets. Donc c'était une espèce de regard, d'une parabole sur la société, les déchets nous racontant.
Donc il y a un ouvrage sorti en 2011, ça s'appelle Recycle.
C'est juste.
Une somme, je crois, près de 200 images, un gros livre.
C'est 20 essais, 20 chapitres qui tournent et qui malheureusement sont préfigurés un petit peu ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une décision aujourd'hui forte, importante, eh ben on va aller dans le mur. C'est-à-dire que la contamination, parce que le livre finit avec deux contaminations nucléaires, les essais atomiques au Kazakhstan qui ont détruit l'environnement pour 30 000 ans, et Tchernobyl. C'est à peu près pareil. Hein. Donc, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit les catastrophes environnementales, le réchauffement climatique, les jeunes qui descendent dans les rues et qui nous disent...
Bah justement, quel genre d'élan ça vous donne, ça, Sylvie Bonvin-Sonsonnance, vous qui êtes verte? Est-ce que vous vous retrouvez dans la rue, justement, à manifester ces derniers temps?
Alors oui, j'ai participé aux manifestations, aux grèves contre pour le climat. Écoutez, moi, j'ai été vraiment bouleversée par ce mouvement des jeunes, parce que au Grand Conseil fribourgeois, nous sommes seulement 6 verts sur 110 députés. Et là, tout d'un coup, on a eu l'impression d'être un petit peu moins seuls. Et j'ai trouvé que pour nous, c'était vraiment rafraîchissant d'avoir du soutien qui venait de la rue et en plus des jeunes.
Notamment en ce moment, enfin, on connaît justement les Zurich, quoi, qui ont élu beaucoup de verts ces derniers jours. Il y a aussi à Lucerne hier, c'est correct?
Oui, et à Bâle-Campagne aussi.
Et à Bâle-Campagne, effectivement. Donc il y a un grand élan. Vous pensez que c'est juste une réaction à ces manifestations qu'il y a eu dans la rue ces derniers temps, ou c'est plus profond, Sylvie Bonvin-Sonsonnance?
Je pense que c'est une réaction un petit peu aussi assez grève, mais je pense que ça vient aussi de plus loin. Les gens sont quand même de plus en plus sensibles aux déchets, sont de plus en plus sensibles à l'énergie, au bilan CO2 de ce qu'ils font, de leur impact environnemental. Et tout d'un coup, il y a une manière de s'exprimer qui s'est créée, et puis tout le monde s'y est rallié. Donc pour nous, c'est bien. Il n'y a pas que la politique pour exprimer ses idées, il n'y a pas que les votes, il y a aussi des manifestations dans la rue.
Des manifestations dans la rue et puis aussi des inforoutes qui arrivent. Alors là, tout de suite, on va vous emmener sur la route.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, un important bouchon s'étend entre les tunnels de Confignon et de Verny en direction de Lausanne suite à la panne d'un poids lourd sur la voie de droite. Et là, tout de suite, on part en musique avec Gustave sur la première, ce que nous sommes.
Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des joies, nous sommes des drames, nous sommes des ombres, nous sommes des peurs, nous sommes des anges et des tueurs, nous sommes des rocs, nous sommes des bulles, nous sommes immenses et minuscules, nous sommes des bêtes sommes, une somme de flammes, ce que nous sommes faibles, nous sommes forts, nous sommes honnêtes. Nous avons tort, nous sommes tristes et miséreux. Nous sommes mauvais, nous sommes des dieux. Nous sommes des chiens, nous sommes des chats. Nous sommes des porcs, nous sommes des rats. Nous sommes des tendres, nous sommes des durs. Nous sommes des sales, nous sommes des purs. Nous sommes heureux, nous sommes navrés. Nous sommes blasés et excités. Nous sommes faux, des enfants de cœur. Nous sommes francs. Tous tes monteurs, nous sommes sombres et lumineux, nous sommes morts, nous sommes amoureux, nous sommes des pères, nous sommes des mères, nous sommes le ciel, nous sommes l'enfer, nous sommes la guerre, nous sommes la gloire, nous sommes le sang et la victoire, nous sommes les villes qui dorment sous les bombes, nous sommes les fleurs qu'on pose sur les tombes, nous sommes la grâce et la potence, nous sommes les rêves. La conséquence, nous sommes la loi et l'anarchie, des adversaires et des amis. Nous sommes le jour, nous sommes la nuit, nous sommes le calme, nous sommes le bruit. Nous sommes en jeu, nous sommes gagnants, nous sommes perdus, nous sommes perdants. Nous sommes lucides, nous sommes sourds et nous cherchons le grand amour. Nous sommes sages, nous sommes idiots, nous sommes l'homme. Et le chaos, je suis dehors, je suis dedans, je suis coupable et innocent, je suis un tendre, je suis une brute, je suis un saint, je suis une pute. Nous sommes maudits, nous sommes bénis, nous sommes des rois, des repentis, des inconnus, des déjà vus, des revenants, des disparus. Nous sommes la mer, nous sommes la terre, nous sommes la terre. L'univers, nous sommes le vent et les nuages, nous sommes le soleil et les orages, nous sommes timides, nous sommes des squales, nous sommes des cendres et les étoiles, des gens de bien, des gens de rien, nous sommes nous sommes tout, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes.
sommes des drames, nous sommes des ombres, nous sommes des peurs, nous sommes des anges et des tueurs. Nous sommes des rocs, nous sommes des bulles, nous sommes immenses, minuscules. Nous sommes des bêtes de somme, une somme de flammes, ce que nous sommes des anges.
Ce que nous sommes, c'était Gustave sur la première à 14h30. Aujourd'hui, dans Premier Rendez-vous, deux invités, comme toujours, Sylvie Bonvin, Sansonnance, vice-présidente du Grand Conseil fribourgeois et députée verte fribourgeoise, ainsi que maître agricultrice et à côté d'elle, Didier Rueff, photographe. Alors, ce compatriote fribourgeois, Gustave, vous l'avez choisi, Sylvie Bonvin, Sansonnance, quelqu'un qui compte pour vous?
Oui, il compte. C'est un petit clin d'œil que j'ai fait aussi à cet artiste parce qu'il réussit l'exploit de nous faire aimer le Saint-Ginois, puisqu'il chante beaucoup de chansons en Saint-Ginois et en Suisse-Allemand. Et pour nous, les fribourgeois, c'est important. Il réussit à faire le lien entre les deux côtés de la Sarine.
Sylvie Bonvin-Sansonnance, vous aussi, je ne me trompe pas, vous avez plus jeune créé une société pour les jeunes filles. J'ai noté ça quelque part, la société de jeunesse pour les filles. C'est bien juste? Vous avez créé ça, Sylvie Bonvin-Sansonnance? J'ai lu ça dans un article, c'est correct ou pas?
Ah oui, mon Dieu, oui. Vous avez... Oui, alors j'habite à Grange-Marnan, un village vaudois où la jeunesse était composée que de garçons. Les filles n'avaient pas le droit de venir. Elles pouvaient servir au bar.
Servir au bar, c'est
travailler
tout.
Voilà. Pendant les fêtes, mais en fait, elles ne participaient pas du tout à la course annuelle des jeunes. On a demandé pour être intégrées dans la jeunesse des garçons. Ils n'ont pas voulu, alors on a créé une jeunesse de filles, une petite équipe de filles. Et finalement, petit à petit, ça s'est... les deux jeunesses se sont mises ensemble.
Vous êtes la première femme fribourgeoise à recevoir la maîtrise fédérale agricole en 2013. En fait, voilà, vous aimez bien les premières, Sylvie Bonvin-Sansonnance. Vous dérangez peut-être un peu, c'est ça, ou je me trompe? Parce qu'il faut quand même y aller, non? Il faut oser.
J'ai pas l'impression de faire une démarche particulière. J'avance toujours et puis j'essaye de faire les choses qui me plaisent.
Mais ça vous paraît logique à vous, mais il faut bien des premières et des femmes qui le font, non? Ça vous parle pas,
ouais,
ça?
Ouais, en ce qui concerne la maîtrise fédérale, il faut savoir que c'est un milieu masculin et puis que les femmes, on est souvent obligées d'en faire beaucoup plus que les hommes pour être connues par nos pères. Donc c'est pour ça que j'ai poussé le plaisir jusqu'à la maîtrise fédérale. Mais je suis heureuse aujourd'hui de l'avoir fait puisqu'il me permet aussi de former des apprentis agriculteurs en spécialisation bio.
Vous en avez formé 6, c'est
j'en ai déjà formé 6, oui.
Alors, spécialisation bio, comment ça s'est passé pour vous ce choix-là?
Il y a eu un déclic, c'était lors d'une présentation de normes de sécurité professionnelle au travail. On est obligé de suivre des cours de sécurité quand on a des apprentis. Et puis c'était sur le thème sur l'utilisation des pesticides et on nous a montré l'équipement qu'on devait mettre dorénavant pour utiliser ces produits. C'était une combinaison de cosmonautes complète avec un système de respiration indépendant. Et je me suis dit, mon Dieu, mais mes légumes sont devant ma ferme, les gens viennent à la ferme manger, acheter mes légumes et ils vont me voir habillée comme ça pour traiter des légumes qu'ils vont acheter et manger. Et ces légumes-là, ils vont aussi être mangés par mes enfants. Et là, je me suis dit, non, stop, c'est... Là, je crois qu'on est en train de marcher sur la tête. Et je crois que la même semaine, je m'inscrivais à BioSuisse.
Donc, d'une certaine manière, c'est l'expérience, on va dire, physique de devoir enfiler cette combi, de devoir voir à quoi ça ressemble, qui vous a permis de tout à coup vous dire, OK, il y a un problème. C'est bien ça. C'est le fait d'avoir été jusque-là.
Si oui, c'était d'avoir visuel. Bon, j'aimais pas tellement les produits utilisés, mais je les utilisais parce que j'avais appris à le faire et puis encore on nous disait que c'était nécessaire. Mais quand j'ai vu cette combinaison et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai vu vraiment visualiser la dangerosité de ces produits.
Sylvie Bonvin-Sansonnance, vous m'expliquiez en préparation de cette émission qu'au début, les paysans bio, on vous prenait pour des rigolos et que maintenant, ça commence à changer et que vous savourez ce petite revanche.
Oui, je pense que aujourd'hui, les paysans conventionnels aussi viennent aussi nous demander des idées qu'on a pu développer de notre côté. Parce qu'ils voient aussi qu'il y a des solutions qui sont utiles pour eux. Donc il y a un vrai échange entre les conventionnels et les bio, et on a beaucoup à apprendre les uns des autres.
Didier Rueff, vous avez remarqué pendant la chanson que le monde paysan allait mal en général, et puis vous lui avez répondu, sauf chez les bio.
J'ai rencontré un paysan bio il n'y a pas longtemps qui est allé à l'assemblée de son association bio cantonale, puis je lui ai dit ça a été, c'était la première fois qu'il y allait. Il m'a dit, mais ça m'a fait tout bizarre. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, mais tous ces paysans qui souriaient. Et c'est vrai, je pense que chez les bio, il y a une dynamique, chacun l'esprit d'aller en avant, de trouver des nouvelles solutions. Et puis, ce qu'il y a de plus important, c'est que les consommateurs nous plébiscitent. Donc ça, pour nous, c'est très important.
Merci Sylvie. Bon, Vincent Sonnant, je me tourne vers vous, Didier Rueff, parce que vous avez publié chez Till Schaap Édition une grosse somme de photographies. Je crois que c'est 127 pages, c'est correct?
Non, c'est... Attendez maintenant les
attendez,
chiffres.
Je vais l'ouvrir.
Il y a 167 photographies, il y a près de 200 pages.
Et c'est énorme, c'est un gros livre, très lourd. Homo Helveticus, des photos noires blanches. Vous avez patiemment récolté pendant plus de 30 ans. C'est une quête identitaire et c'est la vôtre. Didier Rueff, par où on commence?
On peut commencer par le commencement, c'est assez simple. Comme vous l'avez annoncé au départ, moi j'ai grandi avec un grand-père français. Donc ma vision a toujours été vers la France. La Suisse, je n'y connaissais pas grand-chose. Je pense que j'ai jamais été vraiment en Suisse allemande. Une peut-être course d'école au Tessin, quelques vacances en hiver pour skier dans les montagnes valaisannes et c'est tout. Aucun regard sur la Suisse, mais j'avais un passeport suisse. Et à mon retour de New York, alors que j'avais fait ce travail sur la photographie, je me suis dit, mais dans le fond, qui suis-je? J'ai grandi à Genève, qui est une espèce de c'est le dernier petit coin de la Suisse, donc on est déjà loin de tout. Donc petit à petit, je me suis rapproché, j'ai commencé à faire de la photo de rue. Puis après, j'ai été vivre à Zurich. Alors là, ça a été l'immersion totale dans la suissitude, dans cette découverte de ce pays.
C'était dans quelle année, ça?
C'était en 88, et j'ai habité pendant 3 ans et demi à Zurich. Et je sillonnais j'ai commencé à sillonner la Suisse et faire toujours des photos en décalage. Parce que la plupart de ces images sont faites autour des reportages. Une partie a été faite dans ce grand travail que j'ai fait sur les paysans de montagne, par exemple, où là j'ai beaucoup travaillé sur la paysannerie de montagne de haute altitude. Haute altitude, j'ai 1500 mètres et au-dessus. Et voilà, donc ce qui m'a plu dans ce travail-là, c'est que de revisiter un peu tous les mythes, parce que je pense que dans ce livre, il y a tout. C'est un livre qui va parler énormément aux Suisses, parce qu'il y a plein de clichés, plein de clins d'œil. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'ironie, de l'empathie.
Il y a de la provocation aussi.
Beaucoup de provocation, mais ça, je crois que c'est un trait de caractère. Et
là, par exemple, vous avez photographié une cool girl à côté d'un... De quoi?
Là, c'est un tas de lingots d'or qui sont des chocolats, en fait, qui sont en vente dans les rues. Mais j'ai jamais de chance parce qu'avec, chaque fois que je fais des interviews avec les journalistes, elles tombent toujours sur les femmes des quelques photos de femmes dénudées. Donc, il n'y a pas que ça.
Non, il y a effectivement.
Il y a aussi des hommes.
Dans des parcs, enfin, vous êtes dans des supermarchés.
Il y a tout. Il y a tout. Il y a la Suisse, des plaines, des montagnes, des villes. Il y a les quatre cultures.
Et pourquoi ce choix du noir blanc? Est-ce que c'est l'identité suisse qui est noir et blanche comme ça?
Non, parce que c'est depuis toujours les travaux personnels, je les fais en noir et blanc parce que j'aime le noir et blanc pour cette raison de ce décalage qui met avec la réalité. On va plus au cœur des choses, on est plus à l'essentiel. Il n'y a pas de couleur qui nous dérange. Moi, ce que j'aime, c'est aller toucher l'âme, l'émotion, le cœur des gens.
Alors, est-ce que l'âme est en noir blanc, c'est ça, Didier?
Alors ça, je sais pas si l'âme est en noir blanc.
Parce que le noir blanc, c'est aussi la dualité, c'est le côté, c'est soit très noir, soit très blanc, etc. C'est...
Oui, mais paradoxalement, il y a beaucoup de gris. Et toute cette richesse des gris fait que, puis des fois, j'aime à dire que moi, j'ai grandi avec une télévision noir et blanc, alors peut-être que ça m'a perturbé. Mais je crois pas. Je pense que simplement, la photographie, elle est plus forte, elle a plus d'émotion.
Vous êtes parti à New York alors que vous étiez un jeune homme à prendre.
Non, pas tout à fait. Oui et non. C'est-à-dire que la première fois que je suis parti à New York, c'est après ma maturité. J'ai fait un grand voyage de 6 mois aux États-Unis. Je suis arrivé à New York, mais alors totalement perdu. Puis après, j'ai traversé les États-Unis en autostop.
Mais c'est là que vous avez fait votre école de photographie,
non,
quand même.
Non. Là, j'ai fait de la photographie en dilettante. Et puis j'ai gagné un prix. J'ai gagné un prix avec l'illustré. Et ça a été un détonateur. Puis après, j'ai fait une rencontre à l'université, alors que je m'y ennuyais beaucoup, mais avec un photographe, Nicolas Faure, que je salue s'il m'écoute, et qui lui m'a fait comprendre que autre chose sur la photographie. C'était pas juste le vendeur de pellicules du coin, du petit magasin que j'avais près de chez moi, qui avait eu un regard, qui avait eu une vision.
Vous avez fait une école de photojournalisme?
Oui, je l'ai fait après, en 85.
Oui. Ah, c'est bien ça.
Après, déçu par l'économie, je suis parti à New York. Et là, je suis resté 2 ans. Et là, c'était fort.
Et là, on vous a préparé justement un petit clin d'œil avec Spanish Harlem, une Aretha Franklin prête à vous décoiffer.
Ah ben alors, Spanish Harlem, c'est là où j'ai passé près d'un an et demi.
On va y revenir. On écoute.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous. La la la, la la la, la la la.
Aretha Franklin sur la première Spanish Harlem, un clin d'œil pour vous, Didier Rueff, photographe, vous y avez vécu.
J'ai énormément travaillé à Spanish Harlem parce qu'en fait, j'ai dû, lors de cette formation photographique au Centre Ancien de la Photo, ICP, on devait développer un projet personnel. Et j'en ai tellement marre de me déplacer avec les métros et tout ceci. À l'époque, ICP se trouvait à la 96e rue, donc j'ai été naturellement vers Spanish Harlem, qui était à une dizaine de blocs. Et j'ai rencontré une famille qui est devenue un petit peu ma famille, que j'ai suivi sur l'arc de plusieurs années. Je suis toujours en contact avec eux. Et voilà.
En fait, il me semble qu'il y a quelque chose de plus qui a infusé à ce moment-là. Vous avez parlé de la salsa en début d'émission. Enfin voilà, vous portez quelque chose de cette famille-là encore, non ?
Mais ils m'ont tout donné. En m'ouvrant leurs portes, ils m'ont tout appris aussi parce que...
C'est à partir de là que votre regard sur le monde s'ouvre, Didier Rueff aussi, j'ai l'impression.
Non, je pense pas. Je suis pas sûr qu'il s'ouvre, mais disons qu'il m'a permis d'affiner une certaine photographie, une photographie de proximité, une photographie dans laquelle il n'y a pas de mensonge puisqu'on est tellement proches. Il y a des situations difficiles. C'est une famille un peu composite. C'est-à-dire qu'il y avait deux sœurs qui ont eu de multiples enfants avec des maris divers qui avaient disparu. Il y avait des grands-parents encore très, qui avaient la tradition encore de Saint-Domingue, Porto Rico, qui étaient encore très enracinés. Et puis il y avait cette jeune génération qui était un petit peu à l'image des publicités de cette marque italienne multicolore. C'est-à-dire que les enfants, ils avaient toutes les couleurs, du noir au blanc. Et c'était assez fantastique. Et puis, ils vivaient dans les petits appartements et moi, je passais mon temps avec eux.
Didier, vous êtes assis à côté de Sylvie Bonvin-Sonsonnance, vice-présidente du Grand Conseil fribourgeois et députée verte, ainsi que maître agricultrice. Vous avez un domaine, vous, dans la Broye. Est-ce que vous avez aussi eu le temps de voyager avant, Sylvie Bonvin-Sonsonnance, avant de vous engager comme paysanne ?
Oui, j'ai voyagé un petit peu, mais je ne suis pas vraiment attirée par l'étranger. Je voyage beaucoup sur mes terres, j'adore traverser... mais les forêts que j'ai ou les champs, et je voyage beaucoup en restant chez moi. En
fait. Vous voyez, comment dire, vous arrivez à vous émerveiller tous les jours de ce que la nature vous
absolument,
offre, par exemple.
Oui,
il me semble que c'est ça. Vous avez un regard très tendre aussi. Hein, sur...
En fait, je ne ressens pas le besoin de partir. Ce qui désespère mes filles d'ailleurs, parce que quand elles étaient petites, elles voulaient absolument aller à la mer. Et moi, je trouvais qu'on était très bien chez nous. Mais c'est pas que je suis casanière, mais je sais que ça me remplit. Cette exploitation agricole avec ses parcelles, mes champs, les animaux, tout ça me remplit.
Sylvie Bonvin-Sonsonnance, Didier Rueff, je vais vous demander de sortir des objets qui vous tiennent à cœur et qui vous racontent un peu. Alors on commence avec vous, Sylvie Bonvin-Sonsonnance. Qu'est-ce que vous avez amené comme objet ? Vous penchez ? Vous attrapez quelque chose dans votre sac ?
Oui, alors ce matin, je suis allée dans une de mes parcelles et j'ai cueilli un petit bouquet d'esparcettes.
Qu'est-ce que c'est que l'esparcette ?
Alors l'esparcette, c'est une légumineuse qu'on cultivait beaucoup chez nous autrefois, il y a une centaine d'années. Puis elle a été remplacée par la luzerne parce que les rendements étaient beaucoup plus grands. Et chez nous, cette esparcette, on l'appelle le saint foin. Donc le foin pour la santé. Parce qu'en fait, nos grands-parents se rendaient compte que quand ils donnaient ça à leurs animaux, ils avaient l'air en bonne santé, ils avaient un beau poil et ils digéraient bien. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Cette plante a disparu, je vous l'ai dit, parce qu'on a trouvé qu'elle n'était pas assez rentable, assez difficile à cultiver. On l'a remplacée. Et puis, avec les recherches scientifiques d'aujourd'hui, on s'est aperçu que cette plante, si elle est appelée le saint foin, c'est parce qu'elle a des tanins dans les feuilles qui sont un vermifuge naturel. Donc ça aide le corps de l'animal
à se
protéger des vers. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les vermifuges chimiques, les vers développent des résistances. Et autrefois, on devait en donner une fois par année. Maintenant, je crois que certains paysans pour le petit bétail doivent en donner quatre fois par année. Et en fait, les vers deviennent toujours plus résistants. Donc, on voit qu'on fonce contre un mur. Et grâce à cette esparcette, ce saint foin que je cultive, eh bien, les éleveurs peuvent faire des cures pour leurs animaux. Et les animaux arrivent à se défendre eux-mêmes contre les vers. Et avec l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de délai d'attente. Ceux qui sont en chèvre laitière ou en brebis laitière, par exemple, ont un délai d'attente de 15 jours après le vermifuge chimique, tandis que là, ils peuvent continuer à traire leurs animaux et livrer le lait.
Magnifique. Donc en fait, c'est la plante magique sur tous les points. Elle permet de continuer de récolter le lait, de faire du bien aux animaux.
En plus, elle a des protéines. Et si j'ai pris cette plante, c'est parce qu'à mon avis, elle représente un symbole de l'agriculture biologique, l'agriculture moderne, l'agriculture de demain. C'est-à-dire, c'est le passé, les connaissances du passé qui sont analysées scientifiquement avec nos techniques modernes et puis qu'on peut utiliser nous-mêmes, et c'est un, ça c'est le paysan qui se réapproprie un petit peu son élevage, et ça je trouve que c'est très important. C'est vraiment un symbole d'un changement qui est en train de se passer chez nous.
Didier, est-ce que l'homme peut la manger?
Alors, c'est pas mauvais.
En salade.
Ce que je sais, c'est qu'un apiculteur a demandé de mettre des ruches dans mes champs d'esparcettes parce qu'il paraît que le miel d'esparcettes est excellent. Et un vieux monsieur m'a aussi dit que dans son village, le docteur leur disait que quand une famille avait un bébé malade, il fallait qu'ils aillent acheter du lait chez tel ou tel paysan parce qu'ils savaient qu'ils donnaient de l'esparcette, du sainfoin à ses vaches.
Et donc, par le lait,
ouais, on a remarqué aussi que la viande avait beaucoup plus d'oméga.
On peut faire de la soupe.
Ah, peut-être, bon, bah, voilà, peut-être
qu'on va.
Non, j'ai jamais essayé.
Ah, bah, voilà,
moi-même, on en fait des bouchons. On sèche l'herbe, on en fait des bouchons. Et puis après, les gens peuvent acheter et donner à leurs animaux.
Ah, en mode, comme si c'était des croquettes, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais.
Ok. Le sainfoin de Sylvie Bonvin-Sosenance, cueilli à même le champ ce matin.
Voilà.
Dans votre exploitation, Sylvie Bonvin-Sosenance, je crois qu'il y a des chevaux, c'est juste?
C'est juste, ouais.
Vous travaillez aussi avec,
J'ai fait quelques travaux avec les chevaux, des travaux de précision, comme le butage des pommes de terre ou le sarclage entre les lignes.
Combien de chevaux ça représente?
Alors, comme je fais de l'élevage, j'en ai une quinzaine à peu près, parce qu'il y a les jeunes aussi, il y a les poulains, et j'ai aussi deux pensions.
Sylvie Bonvin-Sosenance, donc c'est rigolo, la journée vous avez, enfin c'est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, en tout cas c'est exigeant j'ai l'impression, vous avez vos bottes d'agricultrice, et puis après vos mandats politiques, c'est plutôt le soir, c'est comme ça que ça s'enchaîne en fait, c'est ça?
Ouais, alors c'est pas deux personnalités différentes, c'est une même personnalité. Le soir, je suis fatiguée physiquement, mais j'ai encore l'esprit clair et je suis encore j'ai encore envie, disons, d'avoir cet équilibre entre la réflexion, la discussion et puis aussi le travail physique.
Vous avez l'impression justement que ces deux pans de votre vie, une main dans la terre, l'autre plutôt dans l'administratif, ça vous permet justement d'être très 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 pointue et précise, et ça fait certainement votre force, Sylvie Bonvin-Sosenance.
Je sais pas si ça me rend forte, en tout cas ça me complète complètement quoi. C'est un peu bizarre de dire ça, mais oui, j'ai besoin de ces deux facettes.
Vice-présidente du Grand Conseil fribourgeois, vous allez le présider en 2021, c'est
ça
juste?
Oui.
Une échéance qui vous réjouit, je crois, non?
Oui, je me réjouis parce que ça sera la première fois qu'un Vert sera nommée première citoyenne du canton.
Et puis vous êtes, comment dire, vous avez décidé de ne pas vous présenter pour les élections au Conseil national cet automne. Vous avez déçu plus d'une personne, non? Sylvie Bonvin-Sosenance, on attendait beaucoup de vous à ce niveau-là, non?
Oui, mais mon parti a bien compris ma démarche, c'est que je voulais respecter cet engagement qu'on m'a confié d'être président du Grand Conseil.
Et puis c'était aussi pour vous inscrire sur la durée, parce que vos ambitions politiques dépassent peut-être le court-termisme. C'est ça aussi, on se dit, avec une paysanne bio, on a l'impression que voilà, vous voyez un peu plus loin que le bout de votre nez. Je me trompe ou pas?
J'ai participé à une élection complémentaire pour le Conseil d'État l'année passée et j'ai une petite envie de revanche.
Ah, voilà, Sylvie Bonvin-Sosenance. Avec votre esparcette, c'est bien ça? C'est l'esparcette.
C'est l'esparcette, ouais.
On pense que ça va, une super, comment dire, une super nourriture.
Ouais, qui m'a valu d'ailleurs le prix d'encouragement à l'innovation agricole.
Magnifique. C'était 2500 francs, c'est ça?
Oui.
Une petite aide pour développer comme ça.
Une grande herbe.
Une grande herbe.
Voilà.
Bon, je sais pas si vous êtes une grande herbe, Didier Rueff, mais en tout cas, un fier photographe, si j'ose dire. Et vous avez amené quoi comme objet?
J'ai amené ce qui paraissait un peu une évidence, c'est-à-dire, j'ai amené mon vieux Leica. Je dis vieux parce qu'il a, c'est un Leica M6, argentique, avec dedans mon film fétiche, c'est-à-dire un film Kodak TriX, que j'utilise depuis, on peut peut-être pas citer les marques, mais bon, là, dans ce cas-là. Il a 25 ans, cet appareil, et je l'utilise toujours encore.
Mais alors, comment est-ce qu'on l'acquiert? Comment est-ce qu'on le traite?
Je traite pas très bien les appareils photo, moi. Je traite pas très bien. Je suis pas quelqu'un de très précis. Vous voyez, j'ai même recouvert les noms, donc, pour pas que dans la rue on m'appelle Leica, Leica, Leica. Donc,
Comment ça? C'est quelque chose qui se passe? Les gens vous appellent au nom?
En Afrique, oui. Quand je me suis, ils prenaient le nom de l'appareil photo, puis comme ils le lisaient, ils m'appelaient comme ça. Donc, j'avais commencé à l'époque de couvrir les marques. Et puis, comment on le traite? On le traite, moi je l'ai toujours en bandoulière, il pleut, il neige, je l'ai toujours là, donc non, je ne le traite pas bien.
Mais vous le gardez avec vous non-stop, c'est-à-dire même dans vos moments de loisirs, vous allez à vos cours de salsa par exemple?
Ah non, la salsa, j'ai plus
pas de photos.
Vous
savez faire la séparation?
Non, c'est comme la plongée, je fais de la plongée sous-marine, j'ai jamais fait de photo. Jamais fait de photo, non, la salsa, j'ai pas fait de photo. Mais de temps en temps, l'envie me... Petite I.
Didier Rueff, comment est-ce qu'on envisage l'avenir quand on est photographe comme vous? Je pense que c'est une réalité exigeante, non? De vendre des photos.
C'est aujourd'hui une réalité excessivement difficile, pour dire la vérité, parce que la presse a eu la malheureuse idée un jour d'inventer le gratuit. Et ce jour-là, ils se sont tirés 2 balles dans les pieds. Et ensuite de ça, il y a Internet. Internet où le monde est offert à vous, mais finalement, on y trouve de tout et de rien. Et là où autrefois on envoyait les photographes travailler, aujourd'hui on peut prendre des photos sur place, on trouve des images. Et comme la presse va un petit peu au meilleur marché, ben elle n'offre plus tellement de possibilités. Les ONG avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé sont devenues de plus en plus politiquement correctes. Donc il faut pas avoir un regard trop grinçant. Apparemment, moi j'ai un petit peu trop d'humanité et de...
Vous avez l'impression d'être un peu, comment dire, rejeté, Didier Rueff, c'est ça que j'entends ?
Non, pas rejeté, mais la photographie vit aujourd'hui des jours difficiles. Et puis cette forme de photographie très humaine, très engagée, sociale, n'a pas tellement la cote aujourd'hui. Alors elle a la cote au niveau des moi j'anime des workshops, je fais des conférences, je fais plein de choses en fait. Je fais des livres.
Notamment, vous serez en conférence à la Société de lecture le jeudi 11 avril à Genève. Qu'est-ce que vous allez y raconter, Didier?
Je vais y parler de mon livre, Homo Helveticus. Et c'est toujours des beaux moments. J'avais fait au même endroit une conférence autour du livre Cycle. Et c'est des moments intenses parce qu'en fait, c'est assez simple. Je sélectionne une trentaine de photographies et puis je parle. Et c'est tout le vécu, c'est tout ce qu'il n'y a pas sur l'image, en fait. Je raconte tout ce qu'il y a autour, comment j'y suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens sont captivés.
Alors, racontez-nous une photo de votre livre Homo Helveticus que j'ai dans les bras, là. Vous voulez bien?
Ah, vous voulez la première? Mais la première, je pense que tous ceux qui sont allés à Expo 02 à Bienne, c'était le pavillon, on peut le dire, c'était le pavillon de la Migros, Stranger Than Paradise, il s'appelait. Et c'est un pavillon absolument extraordinaire parce qu'en fait, c'était un immense centre commercial, un mall d'une certaine manière, et avec un caddie géant. Donc c'est une espèce...
Un caddie géant qui est un peu comme un remonte-pente, enfin un télésiège où les gens sont assis dedans.
Ils sont assis dedans, là où finalement les enfants s'asseyent dans le caddie quand on fait les commissions, là c'est deux adultes. Et puis c'était une ironie absolue, un regard sur le monde contemporain, la société de consommation.
On est assis dans la consommation, c'est ça?
Oui.
Avec une vache ici, sur les côtés.
Oui, c'est une faute vache, elle est dans une vitrine, hein, et là c'est du faux foin. Ça c'est des vrais habits.
On dirait qu'ils sont dans un train fantôme.
C'est un train fantôme, mais c'est ça qui m'a fait rire. Moi, j'ai tout de suite imaginé ça. Parce que finalement, souvent, la photographie, elle vient titiller des parties de mon vécu. Et ça, j'ai pensé au train fantôme. Alors là où autrefois, il y avait l'araignée, le truc qui nous tombe dessus, là, non. Et puis la fin, ce qui était fou, c'était vraiment une montée vers le ciel. Un peu comme... Mais c'était aussi un peu fou parce que cette montée vers le ciel, c'est un petit peu comme le cercueil qui part dans le crématorium. Donc, j'ai trouvé très audacieux ce pavillon et photographiquement merveilleux.
Une métaphore assez troublante, disons.
Comme toujours avec moi, puisque la plupart des photos sont toujours un petit peu une métaphore du monde qui nous entoure.
C'est votre côté piquant et ironique. C'est ainsi que je vous décrivais dans mon introduction. Pour le moment, on repart en musique sur la première avec Leila Makala, La vie vieneg sur la première.
La vie vieneg, comme c'est sucré de soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient cabacher sous le soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait bon, nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait bon, nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient cabacher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient cabacher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là, je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là, je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis là, j'en pas fait mon nénon.
Non, pas j'parlerai.
Mes grands-parents, félicitent, pensez-vous. La vie vient qu'après sucre et soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. La vie vient qu'après sucre et soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. Là, je me pas fait bon, l'empoche malheur. Nous faisons pour nous vivre sur la terre bénie. Là, je me pas fait bon, l'empoche malheur. Nous faisons pour nous vivre. Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
L'empoche malheureux.
Les amis, là, j'en pas fait mon nénon.
L'empoche malheureux.
Mais quand vous êtes l'idée pensée, oh.
L'empoche malheureux.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
L'empoche malheureux.
Mais quand vous êtes l'idée pensée, oh.
L'empoche malheureux.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
L'empoche malheureux.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nénon.
L'empoche malheureux.
Mais quand vous êtes l'idée pensée,
Leïla Makala sur la première avec La Vie Vienneg. Vous écoutez premier rendez-vous qui se termine avec aujourd'hui Sylvie Bonvin-Sonsonnens, maître agricultrice et députée verte fribourgeoise. Sylvie Bonvin-Sonsonnens, alors vous, vous repartez au champ là, c'est ça?
Oui, cet après-midi, je dois finir deux, trois choses, oui.
Comme quoi, par exemple?
Alors, j'ai reçu du foin ce matin et il faut que j'aille arranger les balles dans la grange.
Alors, bah, bon amusement,
c'est genre. Bon.
J'ai envie de dire, même si ça demande de l'huile de coude, j'imagine.
Non, c'est le tracteur qui fait tout.
C'est le tracteur. Très bien. Didier Rueff, de votre côté, photographe, on vous retrouve en conférence à la Société de lecture de Genève le jeudi 11 avril. Tout le monde est bienvenu.
Pardon?
Est-ce que tout le monde est le bienvenu?
Le 11 avril? Ah, ouais. Mais tout le monde, bien sûr.
Ah, c'est ça?
Oui, venez nombreux.
Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ici.
Merci à vous.
Bonjour Lucas Torrent.
Bonjour Pauline, dans l'abordage aujourd'hui on va aller dans les Pyrénées, on va aller au sommet du pic du Midi de Bigorre, j'ai noté sur ma feuille.
Pic du Midi de Bigorre.
Voilà, c'est comme ça qu'on dit avec l'accent, que je ne vais pas me risquer à faire. C'est un endroit en fait qui très longtemps a été réservé aux scientifiques, c'est de là qu'on observait les étoiles, et puis c'est devenu un peu entre guillemets caduc, et maintenant l'idée c'est comment faire pour que cet endroit continue de vivre, qu'il y ait encore des scientifiques, mais en plus des touristes, des gens qui dorment, et voilà, on visite un endroit, un lieu, et ce sera donc dans 20 minutes.
Dans à l'abordage après le Flash Info de 15h. Merci beaucoup à Brian Lani et José Moreno qui assumaient la réalisation de cette émission. Notre attachée de production, c'est Marilyn Regard. Merci aussi beaucoup à l'équipe de la documentation écrite qui me fournit de nombreuses infos sur les invités. Si vous voulez nous faire un petit mot, nous proposer des invités justement, une seule adresse, rdv@rts.ch. Sinon, mon premier rendez-vous revient demain. Et pour le moment, sur la première, il va être 15h. Très belle fin de journée à vous, à demain.